voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel au travail. C'est encore l'un des sujets les plus tabous parmi la longue liste des violences faites aux femmes. Le harcèlement sexuel n'est pas une opération de séduction sympathique au boulot. Ça commence par des blagues douteuses, des remarques déplacées et cela peut aller jusqu'au viol. Cela touche tous les pays, tous les milieux, y compris des femmes très diplômées, à des postes élevés. Et le sujet est au mieux ignoré, au pire, largement minimisé par les hommes. Alors que faire? Comment en parler? Comment agir? Les femmes peuvent-elles se protéger? Vos témoignages, vos commentaires sont utiles à tous. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. N'attendez pas la fin de l'émission pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous allons en discuter avec nos invités dans le studio. Marlène Baldeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, déléguée générale de l'association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est une vieille association qui a une longue expérience sur le sujet. Ces associations ne sont pas si nombreuses d'ailleurs dans un pays comme la France à être spécialisées sur le harcèlement sexuel au travail. Marie Peset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste, ancienne experte judiciaire et spécialiste de la souffrance au travail et vous travaillez aussi en particulier sur ces questions-là. On sera également en ligne avec Michel Tanon-Laura qui est enseignante à l'université au Fouet de Boigny à Abidjan, Côte d'Ivoire et qui s'intéresse également aux sections, aux questions de sexualité. Je vous redonne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. On parle du harcèlement sexuel au travail aujourd'hui. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Kizito, qui est à Lomé, au Togo, nous dit « Moi, j'ai découvert que ma copine était harcelée par son patron en regardant ses SMS. Elle était contrainte d'obéir à ses avances par peur de perdre son travail. Mais moi, en apprenant la vérité, eh bien, j'ai rompu avec elle parce que je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle a commis l'irréparable pour garder son poste. Le harcèlement est une pratique courante dans nos sociétés, nous dit Kizito, que ce soit au travail, à l'école. Si tu veux rester, faut coucher. Et on te le fait bien savoir. Le problème, c'est que les harceleurs ne sont jamais dénoncés. Ils sont en position de force et les victimes se sentent honteuses. » Il est intéressant le témoignage de Kizito parce qu'en même temps, il a appliqué la double peine pour sa copine, si on peut dire, hein, puisqu'il l'a larguée. Et en même temps, il défend bien les victimes.
Oui, mais en même temps, il pointe sans le savoir ce qu'on appelle la domination masculine. C'est-à-dire qu'il en veut à sa compagne d'avoir au fond cédé alors qu'elle était dans une relation d'asymétrie et de hiérarchie.
Et c'est pas comme ça. Qu'elle reconnaît bien le harcèlement.
Bien sûr, et c'est pas comme ça qu'on aide les femmes en difficulté. Il faut savoir que cette emprise et cette relation de subordination avec un supérieur induit les femmes pour garder leur travail. Pas qu'en Afrique, mais en France aussi, à céder à ses avances.
Oui, on l'a bien dit, ça touche toutes les femmes partout dans le monde. Même la Confédération internationale des syndicats parle d'une femme sur deux dans le monde victime de harcèlement sexuel au travail. Dapo nous dit le harcèlement est courant au Nigeria et on dirait que le nombre de personnes touchées augmente chaque jour. Josiana est à Brisbane, en Australie. Elle nous rappelle les témoignages des victimes de Donald Trump pendant la campagne présidentielle. C'est vrai que c'est toujours les affaires politiques qui reviennent dans ces cas-là et qui masquent évidemment l'ensemble du monde du travail. Ça ne concerne pas que le monde politique. Les voisins et les voisines, si vous avez été victime de harcèlement sexuel au travail, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors pour comprendre ce qu'est le harcèlement sexuel au travail, surtout pour comprendre ce que vivent les victimes, il faut les écouter. Écoutons Amandine. Elle a 34 ans, elle est mariée, mère de deux enfants. En 2011, elle a été embauchée à la mairie de la ville de Versailles comme directrice artistique. Elle travaille en étroite collaboration avec le directeur de la communication de l'époque, qui est son supérieur. Mais très vite, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Alice Milot a recueilli son témoignage.
Ça a commencé par des remarques sur ma façon de m'habiller, sur ma silhouette. Votre pantalon vous va ravir, il met en valeur votre très belle silhouette, des choses comme ça. C'était vraiment le premier, deuxième, troisième mois. Il y a une période d'essai, ce boulot me plaisait, je ne pouvais pas trop l'envoyer paître. Et donc ça a très vite empiré. En hiver de la même année de mon embauche, il m'a proposé de l'assister à une soirée relations presse chez Lagardère. Avant d'entrer chez Lagardère, il me dit « on va jouer un petit jeu, on va rigoler, on va se moquer de tous ces journalistes, vous allez vous faire passer pour ma femme ». Pour voir si je suis capable de jouer un rôle. Je dis clairement, non, je ne jouerai pas à ça. Et donc du coup, on rencontre plein de gens, et en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment une soirée professionnelle, c'est une avant-première d'un film Les Marches du Pouvoir. Et on rentre en dernier, et on se retrouve au fond de la salle, au dernier rang. Et ils tentaient n'importe quelle approche pour me prendre les mains, ou pour effleurer ma cuisse, où j'étais super malin. Il me reprend les mains, vers ouais, les trois quarts du film, et il s'approche de moi, et il essaye de m'embrasser en me disant « embrasse-moi ». Et là, je me suis levée pour sortir, et il m'a pris par le bras violemment, il m'a poussée sur ma chaise, il m'a tutoyée, il m'a dit « maintenant, tu restes ici, tu bouges pas ». Parce qu'il est hors de question qu'on te voit partir comme ça, mais tout ça en me tutoyant. Enfin, c'était devenu vraiment quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, je suis un peu restée clouée sur mon siège, j'ai eu super peur, j'ai honte, je me dis que c'est de ma faute, qu'il a dû y croire des choses que j'ai pas voulu, que j'ai trop souri à ses remarques, je l'ai trop remercié quand il me parlait de mes vêtements... J'ai attendu que les gens sortent, je suis sortie et j'ai quitté l'endroit. Et je me suis retrouvée dans les rues de Levallois en marchant très très vite. Et il m'a couru après, en riant, en me disant que c'était un test professionnel pour voir comment je réagissais face à la pression et que jamais il m'aurait embrassée, que ce serait jamais rien passé, qu'on avait bien rigolé, qu'en tout cas je l'avais fait beaucoup rire et que voilà, maintenant il allait me raccompagner chez moi, etc. Sur le chemin du retour, c'est l'enfer. Alors il ne me touche pas. Mais il me matraque de questions intimes, ma relation avec mon mari, ma première relation sexuelle, des questions en mitraillette, quoi, un truc hyper oppressant. Et quand je disais « je ne sais pas », il disait « répondez-moi, répondez-moi ». Enfin, c'était vraiment genre une espèce de moment de torture horrible. J'étais vraiment très mal. Je réveille mon mari en larmes, je lui raconte tout, et je lui dis « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je démissionne ? Qu'est-ce que je fais demain quand je vais me retrouver face à lui ?» Parce que, encore une fois, tous les jours, je devais aller dans son bureau pour montrer mes boulots. Et mon mari me dit « écoute, tu vas au boulot demain, tu vois comment lui se comporte et on agit en fonction de ça, quoi. Mais tu quittes pas ton boulot, quoi. »
C'est un job vraiment important pour vous ?
Directrice artistique de la ville de Versailles sur un CV, c'est super bien. Donc ouais, c'est un job important ouais, pour moi. Et professionnellement, je m'éclatais. Hein. Quand on s'est revus tous les deux tout seuls dans son bureau, il s'est excusé pour la soirée en disant « écoutez, ce test professionnel, vous n'étiez pas prête, je suis allée trop loin, n'en parlons plus, ça ne se reproduira plus, etc. etc. » Je me dis « bon, il a merdé, c'est pas grave, on passe à autre chose. » quoi. Et ensuite, ça a repris petit à petit. Quoi. Si jamais je mettais un t-shirt blanc ou une chemise blanche et qu'on voyait mon soutien-gorge, il parlait pendant des heures de mon soutien-gorge, où il me disait « je peux pas travailler dans des conditions pareilles, il faut que vous mettiez un pull parce que là je vois votre soutien-gorge, j'ai une demi-érection, c'est pas possible. » C'est allé très très loin. Hein. Où il me demandait aussi, quand je quittais son bureau, de pas me retourner pour aller à la porte, mais de marcher à reculons parce que s'il voyait mes fesses, il pouvait pas travailler ensuite. Il pensait qu'à mon cul, quoi. Enfin, c'était quotidiennement des trucs comme ça, quoi. Petit à petit, je me rebellais de plus en plus, mais parce qu'il allait de plus en plus loin aussi, quoi. Il a essayé de me toucher, ouais. Première fois que c'est arrivé, je l'ai mis un coup de poing dans le ventre, quoi. Il a commencé à dire que j'étais folle, qu'il pouvait me faire virer pour ça. Moi, ça m'a mis hors de moi. Je lui ai dit, mais qui est le plus fou des deux, quoi ? Moi, je fais que me défendre. Je savais plus s'il fallait que je reste ou pas, s'il fallait que je démissionne, s'il fallait que je le dise, si j'étais dans un état... Enfin, c'était super dur, hein, psychologiquement, quoi.
Ça se voyait ou est-ce que ces remarques étaient toujours faites dans un huis clos ?
Non, ça a vraiment commencé dans un huis clos. Moi, j'en ai pas mal parlé à mes collègues copains. Tout le monde savait que c'était un mec qui était assez lubrique et très porté cul, donc ça étonnait personne, mais personne m'a dit « mais faut que tu en parles absolument, c'est très mal ». Après, c'est une mairie, hein, c'est hyper politique. Quand je pensais en parler, on me disait « non, mais fais surtout pas ça, tu vas être viré, t'es quelqu'un de forte, c'est bon, ça fait 2 ans que tu le subis, maintenant t'as l'habitude, t'arrives à le gérer, ce mec, tu le mets à distance ». Mais tout le monde me déconseillait d'en parler. Ni à la DRH, ni à l'élu délégué du personnel, ni certainement pas au maire. C'était un monsieur très très puissant, qui n'était pas seulement DIRCOM, mais qui était aussi DIRCAM, qui avait l'oreille du maire. une mairie, et notamment à Versailles, c'est vraiment un royaume, hein, c'est une cour. Hein. Il y a le roi, il y a la petite cour, et tout le reste, c'est des espèces de petits pions. Je suis restée 5 ans hein, à Versailles, et je l'ai eu comme directeur pendant 4 ans. J'ai toujours pensé que j'étais la seule. Un jour, la photographe de mon équipe me dit, Amandine, faut qu'on parle. Donc elle me raconte qu'elle était à une inauguration à l'hôtel de ville et que notre directeur, à la fin de l'inauguration, lui demande de sortir les photos tout de suite. Donc il était genre 22h, quoi. Elle lui dit, bah il est un peu tard, j'ai le RER à reprendre, on fera ça demain. Et là, il sort son chéquier et il lui dit, mais vous êtes prêt à donner votre cul, pourquoi ? Je crois que je prends conscience de ce qui m'arrive. C'est une espèce de truc, c'est comme si elle avait soulevé une chape de plomb, quoi. Je fonds en larmes. On en parle avec ma maquettiste, qui me dit qu'elle aussi. Donc là, on se dit, il faut agir, il faut faire quelque chose, quoi. C'est en fait, c'est un malade. C'est juste un pervers, quoi. On va déposer une main courante pour nous protéger, parce qu'on avait fait plein de recherches sur Internet et tout, et on avait lu que s'il y a une main courante, s'il y a une plainte ou quelque chose, enfin une affaire juridique, on peut pas être viré, quoi. Et on avait super peur d'être viré, quoi. Parce qu'on était toutes contractuelles, en CDD d'un an. Moi, j'ai été 5 ans en CDD d'un an, hein, renouvelable. Le maire a mis une semaine à demander au directeur de démissionner. Il a tout nié encore. Théorie du complot. J'aurais manipulé toutes ces femmes pour prendre sa place. Je suis restée un an à ce poste, au placard. Plus aucune responsabilité, plus aucune réunion, plus de mails, plus de coups de fil. On me tournait le dos. J'étais la pestiférée, quoi. Beaucoup d'élus hein, ont dit qu'on était des putes manipulatrices, que c'était horrible de faire ça à un homme marié avec des enfants. Aujourd'hui, dans ma nouvelle boîte, je souris beaucoup moins à mes collègues masculins. Ce qui est bête, hein, mais j'ai une espèce de truc traumatique où je me refuse de sourire quoi, à un supérieur hiérarchique masculin, parce que je veux pas qu'il croie quoi que ce soit. Je prends mes distances.
Marilyn Baldeck, vous êtes juriste. Le témoignage d'Amandine, Amandine a été aidée en fait par l'association à laquelle vous, dans laquelle vous travaillez, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. L'homme en question s'appelle Rémi Le Gall. Il est l'ancien directeur de la communication de la mairie de Versailles. Il a fait l'objet, il faut le préciser, de deux procédures judiciaires. Il y a un premier procès pour harcèlement sexuel qui s'est tenu au tribunal correctionnel en 2015. Rémi Le Gall a été condamné à 6 mois ferme. Il a fait appel. Pour donc deuxième procès il y a quelques jours, le jugement est prévu pour le 14 décembre et parallèlement, par ailleurs, il fait aussi l'objet d'une plainte de sa secrétaire pour viol. Voilà. Comment vous réagissez par rapport à ce témoignage? En quoi est-il emblématique ou pas, Marilyn Baldeck?
En fait, il est emblématique d'une certaine forme de harcèlement sexuel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réalité qui peut prendre des formes extrêmement contrastées. Là, dans ce cas-là, le harcèlement sexuel, il est fait de remarques sur le physique, d'injonctions à s'habiller d'une façon ou d'une autre, de commentaires sur la tenue vestimentaire, de propos aussi extrêmement grossiers, vulgaires, obscènes. Et ça, j'insiste lourdement parce que on a souvent, moi j'entends régulièrement que le harcèlement sexuel est une réalité souterraine, faite de sous-entendus, faite de choses extrêmement subtiles, alors que là on voit bien que c'est pas du tout ça, en tout cas pour Amandine et ses collègues, elles ont été exposées à des propos connotés sexuellement, répétés, extrêmement vulgaires et grossiers, qui les ont réduits à un état d'objet sexuel, qui les ont sans arrêt réifiés, et c'est une des formes du harcèlement sexuel.
Il n'y a pas forcément besoin de gestes pour qualifier un harcèlement sexuel ?
Non, ça peut être, le harcèlement sexuel peut se limiter, et c'est déjà beaucoup trop, à des propos répétés à connotation sexuelle. Mais si vous avez bien entendu le témoignage d'Amandine, elle parle aussi de tentatives de baisers forcés, d'effleurement de la cuisse, qui sont juridiquement susceptibles d'être qualifiées de tentatives d'agression sexuelle ou d'agression sexuelle, puisque là, on a bien des attouchements sur des parties du corps que la jurisprudence considère comme étant très connotées sexuellement, et étant qualifiées d'agression sexuelle quand elles sont touchées sans le consentement de la personne.
Vous avez parlé de répéter, c'est la répétition aussi qui crée les dégâts aussi chez les victimes.
Alors, la répétition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, il y a deux définitions du harcèlement sexuel. Une définition par répétition et une définition par un acte unique. Donc, on a bien prévu qu'un acte unique pouvait aussi atteindre l'ordre public et faire des dégâts. Mais pour vous donner un exemple, hier, j'ai reçu le témoignage d'une femme qui disait que lors de son deuxième ou troisième jour de travail, son supérieur hiérarchique lui avait dit « Bon, ben, ce soir, tu me suis à l'hôtel. » Et ça s'est terminé là. Elle l'a éconduit en faisant une blague, en pensant que ben, voilà, c'était terminé. Et pendant 4 ans, sous sa responsabilité, elle a vécu un enfer. Il a suffi simplement qu'elle les conduise, en plus, en y mettant les formes, en essayant de ne pas le vexer, en ménageant son égo viril. Et malgré tout, ça a été l'enfer pour elle.
C'est-à-dire que le harcèlement sexuel s'est poursuivi, ou au contraire, il s'est arrêté, mais il y a eu des brimades d'un autre genre.
Et il s'est mué en représailles professionnelles, qui fait que pour elle, elle n'a pas pu faire son travail normalement. Elle a été mise sur la touche de son collectif de travail, parce que tout le monde s'est solidarisé avec le plus fort. C'est comme ça, les relations humaines. Et puis, elle est tombée malade et elle a fini par partir.
Mais qu'est-ce qui relève du code pénal, du code du travail ?
Alors, schématiquement, le code du travail, c'est le droit qui permet de mettre en cause les entreprises, les employeurs. Et le droit pénal permet de mettre en cause le harceleur ou l'agresseur, la personne qui a commis les agissements. Donc, les définitions sont les mêmes. En droit pénal et en droit du travail. Après, on n'a pas les mêmes règles de preuve et c'est toujours plus facile de faire condamner un employeur devant un conseil de prud'homme que de faire condamner un agresseur, un harceleur par
le tribunal correctionnel. Il faut que le dossier soit nettement plus fourni.
C'est ça.
Dans le cadre du code pénal, Marie Pesé, vous qui êtes psychanalyste, psychologue, vous avez entendu le témoignage d'une femme éduquée, équilibrée, dans un milieu social aisé, enfermée dans une véritable descente aux enfers, harcelée sexuellement pendant 4 ans. On se dit, quand on l'écoute, Amandine, mais que vivent des femmes sans ressources, seules et peu informées ?
Mais même des femmes qui ont des ressources, qui ne sont pas seules, qui ont des maris. Le problème, c'est que la femme dans le monde du travail, de toute façon, démarre souvent en situation de subordination, étant donné les postes qu'elle occupe, et que de manière générale, culturellement, elle est toujours en position fautive. Et vous l'avez très bien entendu dans le témoignage d'Amandine.
La pestiférée.
Non, mais même avant ça, c'est à elle de faire avec. Elle oublie qu'elle est dans le cadre du contrat de travail. Elle ne va voir aucun des acteurs prévus. Au moins le médecin du travail qui est soumis au secret médical. Ici, il y avait un premier conseil à donner dans votre émission, c'est que quand il se passe ce type de situation, on va vite voir le médcin du travail.
Ne serait-ce que pour laisser une trace, hein, en fait.
Pour laisser une trace dans le dossier médical, bien sûr, et pour savoir qu'il y a quelque part un tiers au courant, ce qui donne quand même des forces.
Vous voulez dire que trop souvent, en fait, les femmes ne font pas de démarche, en fait.
Mais non, mais les femmes sont dans une forme de culpabilité ancestrale biblique, une position fautive qui fait que c'est à elles de se débrouiller avec les pulsions excessives de l'homme.
On commence par aller voir le médecin du travail, s'il y en a un, évidemment.
Mais il y en a toujours.
Non, si on est dans une toute petite entreprise.
Il y en a toujours un, c'est une obligation légale.
Dans un pays comme la France, mais pas forcément partout. Mais en tout cas, ne serait-ce que d'aller voir un médecin même...
On va voir son généraliste
voilà,
à ce
exactement.
Moment-là, pour que ce soit noté dans
un
autre
dossier médical.
Bien sûr, ça fait date. S'il faut aller en justice, les dossiers sont récupérés et ça fait date.
On tient un journal de bord, on conserve les SMS, on peut faire même des enregistrements clandestins.
Tenir un journal de bord, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Oui,
hein.
Oui,
noter tout tous les jours.
On note tout tous les jours, de manière fidèle à la réalité, et après ça peut être un élément qui permet pour les victimes d'objectiver ce dont elles ont victime et ensuite d'en établir la preuve. On peut aussi faire des enregistrements clandestins, c'est des preuves qui sont recevables en matière pénale et qui tendent à devenir recevables en matière civile. Donc on a les moyens d'établir la preuve. Les démarches faites sont le miroir du harcèlement sexuel et donc elles sont aussi retenues au titre des éléments de preuve. Donc on a les moyens d'objectiver le harcèlement sexuel.
Les femmes ont donc des moyens d'agir, ne serait-ce que de faire peur aussi à leur agresseur. Marlène Baldeck, Marie Pesé, vous restez avec nous, les voisins, les voisines, appelez-nous. On parle du harcèlement sexuel au travail aujourd'hui. 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone de notre standard. Vous serez en ligne avec Camille qui vous transfère ensuite en direct dans l'émission. Et bien sûr, vos témoignages sont tout à fait anonymes. 7 milliards de voisins. On revient dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant. Nous sommes en direct et nous rendons l'antenne pour le flash. Retour dans 3 minutes. Restez avec nous.
À l'occasion de
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle du harcèlement sexuel au travail, un sujet dont on peut évoquer finalement, hein, si ce n'est quand il touche les milieux politiques. Nous sommes à l'avant-veille de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors, comment se protéger de ces agressions sexuelles qui sont mal connues, largement sous-estimées, dont les conséquences sur la dignité des femmes, l'estime de soi aussi pour les victimes doivent être entendues. Quel doit être le rôle aussi des employeurs s'ils ne sont pas eux des agresseurs, mais qui ont dans leur entreprise des agresseurs, des harceleurs sexuels envers des femmes. Si vous avez été victime, si vous êtes victime de harcèlement sexuel, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités. Marilyn Baldeck, juriste, vous faites partie de l'association contre les violences faites aux femmes au travail, une des associations les plus actives sur le sujet. Vous accompagnez juridiquement de nombreuses femmes. Alors d'ailleurs, on dit de nombreuses femmes, c'est presque toujours des femmes, mais pas seulement.
Il y a quelques hommes qui peuvent nous saisir, mais qui mettent en cause d'autres hommes.
Marie Peset, vous êtes psychologue, psychanalyste, ancienne expert judiciaire, spécialiste de la souffrance au travail. Et bien sûr, je rappelle notre numéro de téléphone. N'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71.
Je m'appelle Sarik, j'ai 27 ans. On m'a toujours dit, vas-y, fais de la gestion, tu trouveras toujours du travail. Mais malheureusement, j'ai échoué à l'université d'Antananarivo. Ça a été une catastrophe, donc j'ai dû quitter là-bas. Puis après, je suis entrée en filière communication. Et là, j'ai réussi. J'ai été embauchée tout de suite après un entretien. Mais le problème était que le directeur, il m'a draguée. Quand j'entrais dans son bureau, il me forçait à l'embrasser. Il n'arrêtait pas à me dire, t'es ma petite amie, t'es ma copine, je veux t'emmener en France, je veux t'embrasser, viens ici, patati patata. J'ai dû tout de suite quitter, au bout d'une semaine. C'était vraiment la galère. Donc à partir de ce moment, j'ai plus de travail.
Le témoignage de cette jeune malgache, on l'a diffusé lundi dernier dans le cadre d'une enquête sur les jeunes et l'emploi à Madagascar. Il est arrivé vraiment comme une banalité dans la vie d'une fille qui cherche du boulot. Je le redisais en début d'émission, selon la Confédération internationale des syndicats Trade Union Congress, une femme sur deux dans le monde serait victime de harcèlement sexuel au travail. Marilyn Baldeck, vous avez aussi des chiffres à l'association. 95% des femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes perdent leur emploi. On a seulement 5% des cas qui vont en justice. On a d'autres chiffres.
En justice pénale.
En justice pénale, oui.
Parce qu'il y en a beaucoup plus devant le Conseil de prud'homme.
Est-ce qu'on a d'autres cas, est-ce qu'on a d'autres chiffres fiables ou pas? Parce que les 95% de femmes qui dénoncent le harcèlement, qui perdent leur emploi, ça c'est un chiffre de votre association.
Absolument. On a, c'est vrai, assez peu de chiffres, si ce n'est, en tout cas pour des enquêtes récentes, une enquête de 2014 qui a été commandée par le Défenseur des droits, qui est l'ancienne haute autorité, qui a repris la haute autorité de lutte contre les discriminations, à IFOP, et qui dit que 20% des femmes françaises ont été confrontées à du harcèlement sexuel au moins une fois au cours de leur carrière. Donc c'est le plus petit chiffre, en fait, si on regarde toutes les enquêtes, donc c'est au moins celui qu'il faut retenir.
Y compris les enquêtes européennes.
C'est ça.
Qui donnent le même type de chiffres.
En fonction des pays, on est entre 20 et 70%.
Je vous lis aussi des témoignages. Un internaute à Abidjan nous dit « En Afrique, le taux de chômage fait que certains se permettent de soumettre les demandeurs d'emploi à leurs désirs malsains. » Guy, on l'a bien entendu d'ailleurs dans le témoignage de cette jeune femme. En France, elle voulait garder le job. Hein. Guy à Abidjan nous dit « Le harcèlement au travail est présent en Côte d'Ivoire. Il est devenu normal aux yeux de tous. Lorsqu'une femme dépose son CV pour postuler un poste, l'entretien se fait dans une chambre d'hôtel et hop, elle est embauchée. » Abdourahmine est à Dakar. Alors lui, il nous dit « Les femmes s'habillent bien au travail, ça rend les hommes fous de les voir comme ça. Parfois, elles sont hyper craquantes et oublient que ces hommes frustrés viendront les harceler. » Ça, ce sont aussi des commentaires qu'on a extrêmement souvent. On retrouve finalement, c'est la culpabilité, la fameuse culpabilité des femmes. Si elles sont harcelées, c'est qu'elles sont coupables.
Ouais. Marie, moi, je trouve ça absolument étonnant de continuer à entendre ce même éternel discours à la surface de la planète. Ce serait à la femme, raisonnable dans sa manière de s'habiller, de se comporter, de faire avec les pulsions folles des hommes. Attendez, tous les hommes ne se comportent pas comme ça. Il faut arrêter.
D'autant plus que c'est faux. D'abord, tous les témoignages des femmes nous disent bien qu'elles sont habillées tout à fait normalement et que ça ne freine en aucun cas les ardeurs des hommes.
Les ardeurs de ces messieurs. Mais c'est intéressant de voir hein, que depuis vraiment la nuit des temps, c'est sur le dos de la femme que repose la culpabilité de l'attirance sexuelle qu'elle déclenche. Et c'est à elle de se débrouiller avec ça.
Nous sommes en ligne avec Michèle Tanon-Laura, qui est enseignante à l'université au Fouette-Boigny d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous réagissez, Michèle Tanon-Laura, par rapport au dernier commentaire d'Abdou Ramin de Dakar sur la tenue vestimentaire des femmes, qui peut être interprétée, il faut bien le dire, comme un signal éventuel pour un homme?
Oui, malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas conscience de l'impact de leur tenue vestimentaire sur certaines personnes qui sont fragiles. Je veux dire, on a quand même le droit de bien se vêtir, de bien se mettre. Mais ce qu'il faudrait prendre en compte...
Vous voulez dire le droit ou le devoir, hein? Je ne comprends pas.
On a le droit. On a le droit. Le devoir, c'est mitigé. Mais je veux dire, on ne s'habille pas forcément pour provoquer. Et ce que je disais, c'est qu'il faut prendre en compte aussi le profil du harceleur qui, la plupart du temps... Ceux des harceleurs qui accusent la femme par sa tenue vestimentaire, pour la plupart, ils sont dans une situation où ils sont en couple et que leur femme n'est plus sexy à leurs yeux. Donc, ils font un transfert libidinal sur tout ce qui est beau et qui répond à leur canon érotique. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Autrement, la femme n'est pas à tenir pour responsable des harcèlements qu'elle subit. Malheureusement, c'est trop souvent le cas encore.
Marilyn Baldeck, vous souhaitez intervenir?
Oui, alors, moi, j'aurais une analyse différente. Je ne pense pas que les hommes harcèlent parce qu'ils ont des pulsions sexuelles ou parce qu'ils sont simplement, ils ont du désir pour les femmes qui sont l'objet de ce harcèlement sexuel, mais parce qu'ils exercent un pouvoir sur elles. Et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient ou pas une sexualité par ailleurs satisfaisante ou pas. Donc, de ce point de vue, nous, on considère qu'il n'y a pas de profil de harceleur. Le seul profil, c'est que dans une immense majorité des cas, c'est un homme, le harceleur, qui profite d'un statut supérieur, pas seulement un statut hiérarchique, mais un statut en tant qu'homme dans une société patriarcale, et qu'il exerce son pouvoir par le biais de l'humiliation sexuelle des femmes.
Et sur un marché du travail... Oui, Michèle Tanon-Laura.
La prédation fait partie de l'expression du pouvoir aussi ici en Afrique. Et malheureusement, cette prédation-là, elle s'est muée, elle n'est plus exclusivement masculine. Il y a des femmes aussi qui font de la prédation sexuelle dans leur milieu professionnel. C'est un signe de pouvoir, c'est une forme d'expression du pouvoir.
Alors, on a eu effectivement quelques messages qui renversaient la place des victimes et des agresseurs. Fabrice à Cotonou, au Bénin, nous dit « Au Bénin, ce phénomène est courant, à l'école ou au travail, et surtout dans les structures privées, c'est comme ça tout le temps. Pourrions-nous aussi parler des femmes qui harcèlent les hommes ?» Michèle Tanon-Laura.
Bien sûr, il y a des femmes de plus en plus, il y a une majorité, une proportion grandissante de femmes qui harcèlent les hommes. Et le profil de ces femmes-là, c'est qu'elles ont un poste de pouvoir de décision. Donc elles décident, elles ont le pouvoir, parfois elles ont un pouvoir d'argent, d'achat. Et quand elles harcèlent les hommes, si ces hommes-là ont le même pouvoir d'achat qu'elles, on les classe dans la catégorie des femmes volages. Par contre, si l'homme est démuni par rapport à la femme, ça devient du harcèlement sexuel parce que le pouvoir d'achat qu'elle a est un plus pour pouvoir exercer justement la pression sexuelle sur ces hommes-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le harcèlement des femmes ne se limite pas aux hommes. Il va jusqu'aux jeunes filles également en milieu professionnel. C'est une forme, une nouvelle forme, un nouvel espace de l'homosexualité féminine.
Mais ceci dit, évidemment, dans ce sens-là, le phénomène est beaucoup moins courant, non?
Bien sûr, il est beaucoup moins courant, mais je tire la sonnette d'alarme parce que c'est une proportion grandissante. Les femmes ont de plus en plus accès à des postes de responsabilité et... malheureusement, elles ont de plus en plus aussi des comportements de prédateurs.
Marilyn Baldeck.
Je serais curieuse de savoir sur quel type d'études ou de statistiques cette analyse s'appuie. Après que des femmes, de manière un peu exceptionnelle, puissent vouloir ressembler aux hommes, parce que c'est le seul moyen pour elles, justement, de survivre dans un monde de requins d'hommes, en adoptant les mêmes stratégies de pouvoir, et notamment en passant par la sexualité, pourquoi pas? En tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on observe en France.
Bon, on ne coule pas sous les témoignages de victimes hommes, évidemment. Michel Tanon, Laura, il y a des pays sur le continent africain où la sexualité semble plus libre, plus affichée, comme en Côte d'Ivoire par exemple, si on compare, je sais pas, par rapport à un pays comme le Niger. Est-ce qu'il y a ça une incidence sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel au travail ?
Écoutez, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de femmes de diverses cultures peuvent échanger sur des thématiques liées à la sexualité, parce qu'autour de soi, on ne peut pas forcément en parler. On a peur des représailles de la famille, de l'entourage professionnel. Et en milieu professionnel, il y a une chose aussi, vous parliez tout à l'heure du médecin du travail, ce qui retient les femmes en milieu professionnel, c'est la connivence affichée entre leur harceleur et la personne à qui elles auraient envie de se confier. Ça fait qu'elles ont des réticences parce qu'elles ne savent pas si les deux vont faire bloc contre elles. Alors ça résorbe leur velléité à dénoncer les harcèlements dont elles sont victimes.
Marie Pesé.
On entend là le même raisonnement que dans le cas du harcèlement moral. C'est-à-dire que si on va parler au médecin du travail, il va vite aller voir l'employeur pour raconter des choses.
Moi, alors, je rappelle que ça peut tout à fait être le cas, ceci
pas
dit.
Pas du tout. Le médecin du travail est un médecin comme les autres qui a prêté un serment de secret professionnel
bien
absolu.
Sûr.
Et s'il le transgresse, il peut être poursuivi devant le Conseil de l'Ordre et se voir retirer.
Il peut être poursuivi, mais ça dépend des pays, ça n'est pas forcément le cas. Mmh. Mais vous avez raison, sur le papier, c'est comme ça que ça fonctionne.
Bien sûr. Et de toute façon, c'est écrit dans le dossier, ça laisse des traces et c'est ça qui compte.
Michel Tanon, Laura, vous restez en ligne avec nous. Nous accueillons... je vais redonner le numéro de téléphone. Je crois qu'on est en train d'essayer de rappeler un auditeur qui nous appelle de Libreville. 33 1 84 22 71 71. Il faut rappeler tout de même, Michel Tanon, Laura, que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a effectivement extrêmement peu de plaintes qui peuvent aboutir dans le cadre du code du travail et encore moins dans le cadre du code pénal.
Bien sûr, ici, ce qui s'est fait récemment, la semaine dernière, en milieu hôtelier, il y a eu des renforcements de capacité du personnel d'hôtellerie parce que c'est un centre névralgique des harcèlements sexuels, tout comme le milieu de travail domestique. Donc ces deux endroits sont des espaces où il y a beaucoup de harcèlement sexuel du fait du confinement, de la promiscuité qu'il y a entre les différentes personnes qui occupent ces espaces-là. Et dans les renforcements de capacité, il s'agissait de montrer aux personnes qui travaillent dans ces endroits-là les indicateurs de harcèlement, des indices pour pouvoir reconnaître des harcèlements et comment les éviter.
C'est-à-dire que là, on est toujours dans le camp de la victime, en fait. C'est à la victime de se débrouiller comment se protéger.
Mais les patrons en hôtellerie, ce qui s'est passé lors des séminaires récents, les patrons ont quand même pris des engagements et il y a des hôtels où les patrons quand même réagissent, ils interpellent les clients. Mmh. En général, les clients qui se permettent ça, ce sont des clients qui sont fidélisés dans la boîte et qui ont un certain statut social. Donc, on donne des consignes aux jeunes. Il ne faut pas rester plus d'une minute ou deux dans la chambre d'un client et il ne faut jamais fermer la porte après soi quand on vient faire un service en chambre. Donc, il y a des petites astuces qu'on donne aux jeunes filles pour ne pas qu'elles se mettent en danger elles-mêmes.
Mais ça
peut être... Les patrons ont été interpellés.
Oui, ça peut être aussi du harcèlement entre des managers et des jeunes femmes à des postes moins élevés.
Oui, bien sûr. Ça, c'est
on
partout,
donne la parole à un auditeur. Alors, bien sûr, on va parler du rôle qu'ont les managers, les patrons dans les entreprises, les services des ressources humaines dans les plus grandes entreprises. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Libreville. Bonjour, Brian.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
D'accord. Moi, j'aurais une question à l'attention de Marilyn et de Marie. C'est vrai que le thème du jour est plus basé sur le harcèlement sexuel subi par les femmes de la part des hommes. Mais qu'en est-il du cas inverse ? Et pourquoi constatons-nous qu'il y a un certain vocabulaire lorsque un homme fait l'objet d'un harcèlement sexuel qui tend à minimiser même ce crime, ce délit-là. Notamment, nous avons un terme de gigolo, par exemple. Si c'est un homme ayant des moyens limités, ayant une capacité financière limitée, faisant l'objet d'un harcèlement sexuel de la part d'une femme ayant des moyens financiers relativement considérables, s'il se laisse faire, s'il vient à avoir des rapports avec cette dame, il serait automatiquement étiqueté de gigolo.
Brian, est-ce que vous-même, vous avez été victime d'un harcèlement sexuel dans votre entourage professionnel par une femme ou jamais?
Dieu merci, non, mais j'en ai rencontré.
Vous avez rencontré qui?
Je suis juriste. Mm-hmm. Je suis juriste et oui. J'ai des amis de fac, d'autres qui...
Donc des amis hommes
Oui, des amis hommes qui m'ont déjà soumis pour avis de cas pareils. Ils seraient confrontés à...
Quel cas concret, très précisément, de quoi se disait-il victime, très précisément?
Très précisément?
Oui, chantage sexuel
Chantage sexuel, d'avance sexuelle.
Marie Pesé, vous souhaitez intervenir?
Mais oui, parce que l'exemple aille dans un sens ou dans l'autre, ce que ça pointe, ce sont les rapports de force dès qu'on est dans un contrat de subordination. Et cela pointe surtout la tentative toujours d'humilier la victime. Ou bien elle l'a attirée par ses vêtements, ou bien si elle cède aux instances sexuelles, c'est un gigolo, ou bien c'est une pute. De toute manière, le scénario est le même, quel que soit le cas de figure. Donc il faut davantage s'intéresser au fond, aux ingrédients, aux mauvais ingrédients qui font la situation et la difficulté de sortie de la situation.
Je pense que notre auditeur parlait d'autre chose. Il parlait en réalité de prostitution, puisqu'il parlait de sexualité tarifée. Donc on est sur une autre réalité que celle du harcèlement sexuel. Et la réalité, c'est que les clients de prostituées sont dans le monde entier, dans des proportions écrasantes, des hommes qui, entre guillemets, consomment sexuellement des femmes. Et l'inverse existe, mais il reste anecdotique.
Ouais, mais ça peut être aussi un chantage sexuel exercé par une femme pour qu'un homme conserve son job ou obtienne un job. On peut imaginer que cette réalité-là existe aussi. Je pense que c'était ce que vous souhaitiez également souligner, Brian. C'est bien ça, si on a compris.
Exactement.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71. Que peut faire, puisqu'on l'a dit, dans l'immense majorité des cas de harcèlement sexuel au travail, il s'agit de femmes. Que peut faire exactement aujourd'hui une femme, y compris si la justice de son pays est peu opérante, mais on l'a dit aussi, de toute façon, dans des pays développés comme en Europe, les plaintes sont extrêmement minoritaires. Quelles sont les étapes que peut faire une femme pour se protéger, pour également aussi, je dirais, effrayer son agresseur ou en tout cas le mettre en garde?
Je pense qu'effectivement, dans les pays où le droit n'est pas protecteur et ils sont majoritaires dans le monde, donc il faut essayer de trouver d'autres leviers et que peut-être que le mot-clé, ça serait le terme de solidarité ou de solidarité autour de la victime dans un collectif de travail. Parce qu'on sait que la stratégie des harceleurs, c'est de diviser pour mieux régner, de faire croire à la victime que les autres n'ont pas envie de travailler avec elle ou qu'elle est moins compétente, etc. etc. Et donc là, ça n'est pas... Parce que depuis le début de l'émission, on renvoie la responsabilité aux victimes de ne pas être victimes. Je trouve que c'est un peu fâcheux. Donc là, je renvoie la responsabilité aux collègues de travail d'entourer la victime et d'être en solidarité avec elle et pas de se solidariser avec le harceleur.
Y compris des managers qui ont ce devoir-là aussi d'ouvrir les yeux.
Ils ont un devoir au moins éthique, si ce n'est légal, en tout cas pour nos pays européens, de faire cesser le harcèlement sexuel, de protéger la victime et de sanctionner le harceleur.
Une victime doit systématiquement chercher d'autres cas. Il y a forcément d'autres cas. Un harceleur harcèle rarement une seule femme.
Bien évidemment, il est dans son rapport de pouvoir et d'emprise et il adore en abuser. Donc il va l'exercer sur des personnes successivement ou sur plusieurs en même temps. C'est très important de sortir de l'isolement. Et il y a toujours deux stratégies. La stratégie collective, c'est que plus les femmes en parleront, plus elles le diront, plus finalement le fonds culturel évoluera comme en France actuellement.
Chercher d'autres cas, aller consulter un médecin pour qu'il y ait une trace dans un dossier médical, et évidemment contacter des syndicats dans une grande entreprise, tenir un journal de bord, conserver tous les SMS, les mails, etc. Aller éventuellement à l'inspection du travail également selon les pays et déposer une main courante dans un commissariat. Ça, c'est souvent possible, même si d'ailleurs la police décourage. En principe, il demeure bien une trace d'une main courante, Marilyn Baldeck, et c'est le démarrage d'une éventuelle procédure.
Oui, alors c'est en fait, ça va être un indice au terme de ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants en matière de harcèlement sexuel. On n'a pas besoin de témoins directs, en tout cas en France. souffrance. On n'a pas besoin de preuves complètes, mais de créer ce qu'on appelle donc un faisceau d'indices qui va au pénal emporter la conviction des juges. Et dans une procédure prud'homale, il va être soumis en fait à l'employeur et ce sera à lui d'apporter la preuve contraire. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve.
Nous donnons la parole à Mathéo qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Mathéo.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et vous êtes comme pas mal d'auditeurs, vous vous posez la question des limites. Qu'est-ce que, on en parlait au début de l'émission, qu'est-ce que le harcèlement sexuel? La limite, c'est ça entre la drague et le harcèlement sexuel, Mathéo?
Oui, exactement, parce que on a mentionné au début de l'émission qu'il ne fallait pas nécessairement une répétition pour que ce soit identifié comme du harcèlement. Mmh. Donc, il y a des situations où on peut être intéressé, mais sincèrement, par une collègue qui n'est pas forcément dans une relation supérieure et subordonnée, mais on est réellement intéressé. Et c'est vrai que des fois, ça peut être maladroit, mais ça peut être de la drague sincère. Maintenant, si après, la personne, lorsqu'elle a été recalée, elle accepte et elle ne revient plus. Est-ce que c'est aussi du harcèlement? Parce que la limite, elle peut être assez floue. En tout cas, du point de vue de la victime, entre guillemets, dans ce cas. Mmh.
Marilyn,
ce qui est certain, c'est qu'un séducteur de bonne foi ne deviendra jamais un harceleur sexuel. C'est deux choses différentes. Et le harcèlement sexuel, ce n'est pas de la séduction qui dérape. Voilà. Donc, il n'y a pas de frontière entre les deux.
C'est pas évident, quand même. Quelle est la limite entre le séducteur de bonne foi et le harceleur, non?
En fait, si. En fait, les victimes, pour elles, c'est évident. Elles font extrêmement bien la différence. Et je vous assure que les hommes qui sont en interaction avec elles savent aussi très bien faire la différence et savent très bien quand ils vont trop loin. Donc, ils savent très bien quand ça n'est pas de la séduction et quand c'est du harcèlement sexuel, parce que nous, tous et toutes, êtres humains, nous envoyons des signaux de plaisir, oui, des signaux d'acceptation, des signaux de réciprocité. Et s'ils sont présents, ça n'est pas...
Voire même une femme qui est conduite à un séducteur, il reste sympathique et elle ne le prend pas comme une agression.
Absolument.
On est bien d'accord.
Il
comprend qu'il était conduit, même s'il va poursuivre un petit jeu, mais qui reste finalement charmant, c'est ça?
Alors, un petit jeu charmant dans des relations professionnelles, ça peut vite être extrêmement dérangeant, surtout si c'est son supérieur hiérarchique. Donc, c'est bien les personnes qui sont en situation de domination, d'autorité, qu'ils tirent de leur statut sexuel ou de leur statut hiérarchique, de prendre garde à ne pas
abuser de leur statut. Donc, le séducteur comprend le mot « stop », en fait.
Mais plus que ça, il comprend le mot « stop » et il comprend quand on ne dit pas « oui ». C'est-à-dire que le consentement, ça n'est pas seulement le défaut de consentement, c'est pas seulement dire non, c'est ne pas dire oui, c'est ne pas être participative.
Marie Pesé.
Mais bien sûr, on voit là à quel point, puisque on rencontre beaucoup l'homme ou la femme de sa vie au travail, à quel point la superposition des deux sphères est complexe. Je crois que quand on est au travail, il faut jamais oublier qu'on est dans un cadre légal et que les comportements ne peuvent pas être tout à fait les mêmes que dans la vie à l'extérieur, oui, de l'entreprise.
Oui, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait le lieu. En effet, pour draguer, il y a d'autres lieux. Pour cela, nous donnons la parole à une auditrice qui nous appelle du Mali, Khadija, au 33 84. 22 71 71. Bonjour Khadija, vous êtes à Kayes au Mali.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Khadija.
Oui, je voulais faire un témoignage. En 2014, j'ai eu à être prise dans une université privée.
Oui.
Voilà, donc le directeur, il n'était pas très stable à Kayes. Il faisait des allers-retours entre Bamako et Kayes.
Oui.
Et quand il venait, il ne voulait pas que la secrétaire lui fasse un petit café. Ni rien. Il insistait à ce que ce soit moi qui lui fasse son café, ses petits trucs.
Vous, une étudiante de l'université?
Bon, je prenais des cours là-bas et j'étais prise aussi comme assistante commerciale.
D'accord, vous aviez un double statut, ouais, donc, hein, à la fois cliente et employée, finalement.
Employée, voilà. Donc, c'est comme ça, pour aller vite, un vendredi, j'étais habillée en pagne, et j'avais mis un voile aussi. Et quand il m'a demandé de lui faire son café, je suis allée lui apporter le café dans le bureau. Et après, il s'est approché de moi. Quand j'étais abaissée en train de remuer le café, il me dit, ma nièce, vous êtes très bien habillée. Et c'était la première fois qu'il s'approchait de moi, il me touchait, il me parlait comme ça.
Jusqu'où c'est allé?
Dans le dos.
Jusqu'où c'est allé, oui, Khadija?
Oui, quand on était trois, parce que le coordinateur était là aussi, après il m'a dit, Khadija, vous allez m'accompagner à l'hôtel, vous allez me faire mes saisies. J'ai dit, moi, monsieur? Il a dit, oui, vous, ma nièce. Et là, le coordinateur était dit, bon, d'ailleurs, monsieur Si va nous accompagner. Donc, je me suis sentie rassurée, on est parti. Donc, si, je ne sais pas si c'était un complot avec lui, entre lui et monsieur Si. Parce qu'après, monsieur Si, il est sorti. Et là, monsieur Idrissa Sow, lui, il était là. Il me dit, mais ma nièce, mettez-vous à l'aise, hein, mettez-vous à l'aise.
Khadija.
Non, monsieur, je suis à l'aise comme ça. Il a fermé la machine. Pendant que je faisais la saisie, il a fermé l'ordinateur. Et il m'a posé le bras, il m'a fait asseoir sous le lit. Je ne vais rien te faire de mal. Reste tranquille. Il s'est assis au bord du lit.
C'est à lire jusqu'où, Khadija? Il nous reste quelques secondes avant de rendre l'antenne.
Il a eu à me faire des attouchements. Il s'est frotté contre moi.
Merci beaucoup, Khadija. Merci de nous avoir appelés. Je pense que votre témoignage, beaucoup de femmes se reconnaissent. Un mot, Marine Baldeck, il manque quoi pour que les mentalités évoluent partout dans le monde là-dessus?
Il manque la mobilisation des hommes pour que ce soit eux qui s'amendent et qu'on n'en demande pas autant aux femmes. Et je voudrais simplement exprimer notre solidarité.
Merci à toutes les deux. Demain, 7 milliards de voisins, même heure, même endroit.